Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il est parfois difficile d'imaginer qu'il existe véritablement des êtres derrière les mots qu'on lit. Le nom de l'auteur ou du poète, inscrit sur la couverture d'un livre, apparaît au lecteur comme un signe vide, ou du moins le nom d'un personnage fictif, dont on parle et on entend parler, sans qu'il ou elle n'ait de corporéité ou même de voix. Il est encore plus difficile de concevoir ces personnages comme ayant une vie sociale et intellectuelle dans laquelle ils se croisent, s'apprécient et conversent. Ces êtres de papier, surtout quand ceux-ci sont morts, restent des figures historiques dont les mots sont comme les traces d'une existence qui n'est que fantasmée et abstraite. Imaginer une conversation, par exemple, entre André Breton, Pierre Reverdy et Francis Ponge semble impossible. De quoi parleraient-ils? Quelle serait la teneur de leurs propos? À quoi ressemblerait le son de leur voix? Seraient-ils d'accord entre eux? On pourrait croire qu'il faudrait écrire une fiction entière pour ne serait-ce qu'imaginer la réponse à ces questions, ou bien réaliser un travail titanesque d'immersion dans les archives pour spéculer et donner la réponse la plus précise possible. Pourtant, il s'avère que cette conversation a réellement eu lieu dans l'émission Rencontres et témoignages d'André Parino, diffusée pour la première fois en 1952. Par la magie des archives, nous sommes en mesure de rediffuser cette conversation entre trois monstres de la littérature, figures emblématiques de leur époque, incarnant des poétiques aussi différentes qu'essentielles dans l'histoire de la poésie française. On y entend d'abord trois voix bien distinctes, celle d'un André Breton flamboyant, très à l'aise évidemment dans l'exercice de l'entretien, tant le meneur du mouvement surréaliste aimait à être mis en avant par la presse. Celle de Pierre Reverdy, dont les talents d'orateur détonnent et déconcertent, tant son accent narbonné vient souligner des propos intenses et fascinants. Et finalement Francis Ponge, qui, bien que plus en retrait, fait également entendre son point de vue, déclarant qu'en tant que poète, il a choisi la misère en réponse à son inadéquation au monde. La discussion qui suit est incroyable à bien des égards. Ce n'est pas seulement l'identité des protagonistes, mais ce qui est dit qui paraît presque irréel. Les phrases et les échanges, pourtant spontanés, paraissent sortir tout droit d'une scène de roman ou d'un collage de textes théoriques, tant l'expression est limpide et poétique. Chaque mot prononcé est une ode à une poésie qui veut se vider de tout artifice cosmétique et qui veut, dans les mots de Reverdy, puiser dans les profondeurs plutôt que de se complaire aux éclats de la lyre.
Veuillez écouter Rencontres et témoignages, une émission d'André Parino.
Les émissions Rencontres et témoignages commencent aujourd'hui par le colloque de trois grands poètes. Cette série de 10 émissions doit permettre de formuler, dans chacun des grands domaines de l'art et de la pensée, les interrogations essentielles que se posent aujourd'hui les artistes, les hommes de science, les intellectuels. 10 émissions ne peuvent couvrir, évidemment, l'ensemble des grandes disciplines de recherche et de création. Nous avons donc choisi de poser le projecteur sur les domaines où les problèmes sont les plus aigus et les plus importants pour l'ensemble des artistes. C'est ainsi qu'autour du micro, Pierre Reverdy, André Breton, Francis Ponge sont réunis aujourd'hui pour s'entretenir des questions profondes intéressant la poésie qu'ils servent depuis tant d'années avec l'intransigeance que nous admirons. Je voudrais vous demander tout d'abord de nous préciser quelle est aujourd'hui, de votre point de vue, l'importance dans la littérature contemporaine de la poésie que vous servez, Pierre Reverdy.
Eh bien, mon cher Perrineau, l'importance de la poésie aujourd'hui est immense. Elle n'a jamais été tant à l'honneur, non seulement dans les lettres, mais encore dans les arts. Les peintres qui comptent dans notre époque se réclament tous d'elle, ne prétendent tendre qu'à elle. Ce qui ne veut pas dire qu'ils consentent volontiers à partager la portion ou le repas avec les poètes, mais ils aiment bien se mettre à table avec eux. Comparez par exemple leur attitude, sans doute un peu théorique, envers les poètes d'aujourd'hui, à celle de Delacroix envers Baudelaire, assez dédaigneuse et distante, et incompréhensive, il me semble.
André Breton.
Je doute que la poésie soit aujourd'hui tellement en honneur, et je connais trop bien Pierre Reverdy pour ne pas penser qu'il parle ainsi par euphémisme, qu'il rit de pitié dans son fort intérieur. Il est vrai qu'au moins en apparence, la malédiction qui pesait sur la haute poésie a été levée, mais je ne suis pas sûr que cela vaut mieux. Il n'y a toujours pas, il ne saurait-il du reste y avoir de possibilité d'insertion de la poésie parmi les divers modes d'activité littéraire. Elle est d'une essence foncièrement différente. Alchimie du verbe, il me semble qu'on n'a pas dit mieux. Rien de commun avec les opérations où le langage tout donné n'est plus utilisé que comme véhicule ou monnaie d'échange. Je ne crois pas que Francis Ponge pense très différemment.
Non, bien sûr. Et je ferai seulement mon possible pour accentuer à ma manière cette déclaration. Dans un brouhaha croissant, mené par les publicistes, les professeurs, les philosophes et même les concierges de la littérature, très en faveur en ce moment, nous naissons, nous, chaque fois, et aujourd'hui encore, muets, dans un monde muet. Il ne nous manque que la parole, et il s'agit donc de la prendre, puisque, au regard de ce que nous avons à dire, nous serions un peu loin de compte, nous en tenant à la langue telle qu'elle se donne. Elle s'est un peu trop donnée depuis 700 ans. Pour comble, on nous demande souvent de nous exprimer rationnellement. Étant entendu qu'aujourd'hui même, ici même, nous nous exprimons en langue morte, je ne pense pas que nous puissions valablement proclamer autre chose que notre différence et notre orgueil. Dans la langue de l'ennemi, nous ne pouvons guère qu'évoquer notre langue originelle. Nous ne pouvons qu'élargir autant que possible le fossé qui, nous séparant non seulement des littérateurs, mais même de la société humaine, nous tient proche de ce monde muet dont nous sommes ici comme les représentants ou les otages.
J'aurais voulu savoir si vous estimez que la poésie doit jouer ou qu'elle joue un rôle social, Pierre Reverdy.
Eh bien, socialement, l'importance de la poésie est nulle, selon moi, depuis longtemps. Il lui manque ce qui atteignait autrefois un plus grand nombre de gens, le sujet. Béranger était un poète social. Aujourd'hui, la satire est inexistante sous cette forme, mais il y a la chanson qui hypnotise les masses. Aussi bas que ce soit, c'est elle qui joue le rôle social. Mais la véritable importance de la poésie, du point de vue général, n'a pas à être sociale. C'est-à-dire, au fond, politique. Elle est vitale. Elle a toujours été vitale. Je crois qu'elle est à la base de l'élévation et de l'évolution humaine. Elle a même, certainement, été la source de toutes les religions. Je ne pense donc pas que la poésie doit se cacher de notre temps plus qu'elle n'a eu à se cacher dans un autre, dans aucun autre. Mais qu'elle doive puiser dans les profondeurs plutôt que se complaire aux éclats de la lyre, oui, parce que le temps est venu pour elle d'exploiter cette zone-là, celle où le poète espère et risque de rencontrer ce qu'il pressentait être le plus important à lui-même et qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut rendre évident pour lui-même qu'en écrivant.
Cher André Breton, votre avis sur cette question ?
Très semblable. Je vais même plus loin. J'estime que lorsqu'une œuvre qui présente extérieurement les apparences de la poésie prétend à une valeur immédiate sur le plan social, ou se voit accorder d'emblée une importance sociale, elle n'a en fait plus rien à voir avec la poésie. De son temps, par exemple, le prestige social de Hugo s'est évidemment fondé sur les pièces à grand effet, humanitaires ou autres, qui sont poétiquement les plus faibles de son œuvre. Et c'est tout à fait abusivement que certains prêtent à Rimbaud des intentions sociales précises dans des poèmes comme « Paris se repeuple » ou « Chant de guerre parisien », dont le sens, à tout prendre, est des plus ambigus. Je tiens la chanson d'aujourd'hui pour une petite mendiante effrontée qui spécule sur ce qu'il y a de plus sirupeux et de plus louche dans l'âme humaine. Ou je me séparerai vivement de vous, cher Pierre Reverdy, c'est lorsque vous dites que la poésie a été la source de toutes les religions. S'il est incontestable qu'elle est à l'origine des mythes et des légendes dans lesquelles l'homme primitif a projeté à la fois la misère de sa condition et la puissance de ses désirs, pour moi, les religions ne sont que la rationalisation à des fins d'exploitation par une caste bien limitée de cet état de choses. Ce disant, il va sans dire que j'incrimine tout spécialement la religion judéo-chrétienne. La poésie vivante qui, comme vient de le dire si bien Pierre Reverdy, doit puiser dans les profondeurs, entre nécessairement en conflit aigu avec cette religion à la fois figée et figeante, dont elle ne peut, selon moi, que rejeter violemment les commandements et les interdits.
Francis Ponge.
Ici encore, je n'éprouve que le besoin d'aggraver, autant qu'il est en mon pouvoir de le faire, ce que vient de dire Breton. Non seulement les religions, et en particulier la religion judéo-chrétienne, me paraissent en cause, mais l'humanisme tout entier. Ce système de valeurs que nous avons hérité à la fois de Jérusalem, d'Athènes, de Rome, que sais-je, et qui a ceinturé récemment la planète entière. Selon lui, l'homme serait au centre de l'univers, lequel ne serait, lui, que le champ de son action, le lieu de son pouvoir. Joli pouvoir, belles actions. Nous en avons eu quelques échantillons ces derniers temps encore. Pourtant, il ne s'agit, à mon avis, que d'une pseudo-civilisation et d'une ceinture superficielle. Le fameux conflit dont on nous rebat les oreilles, ce conflit économique et militaire qui menace en surface le monde, ne me paraît que l'effet d'un schisme, finalement assez dérisoire, bien qu'il doive lui être mortel, à l'intérieur de la pseudo-civilisation finissante. Tandis que par-dessous chemine, depuis près d'un siècle déjà, et viennent en surface parfois, les germes d'un événement ou avènement plus sérieux. Ces indices sont surtout sensibles, et je ne vois pas pourquoi, je ne dirais pas exclusivement sensibles, dans la nouvelle peinture, depuis ce rat Van Gogh Cézanne, et dans une certaine poésie, depuis celle des années 70. Maintenant, ce que nous savons de reste, c'est comment cela se passe pour les civilisations. À savoir qu'après une période de découverte des valeurs, viennent celles de leur élaboration, élucidation, dogmatisation, raffinement. Dès la dogmatisation naissent les schismes, d'où, tôt ou tard, catastrophe suit. Peut-être la leçon est-elle qu'il faut abolir les valeurs dans le moment même que nous les découvrons. Voilà, à mon sens, l'importance, et aussi bien l'importance sociale, de la poésie.
Ou alors je solliciterai quelques précisions sur les sources d'inspiration de votre poésie, Pierre Reverdy.
Les sources de la poésie contemporaine ne doivent pas être très différentes de ce qu'elles ont toujours été. Le poète lui-même en face de la réalité, sociale surtout, à laquelle il ne s'adapte pas.
André Breton.
Puis-je faire observer qu'il a d'autant moins de chances de s'y adapter que sa vocation de poète témoigne, d'après Freud, du besoin impérieux de compenser un trouble important du développement psychique qui mènerait autrement à la névrose. Il en résulte que cette révolte contre la réalité est chez lui constitutionnelle et, n'en déplaise à de non-poètes comme M. Albert Camus, inconditionnelle.
Francis Ponge.
Dirais-je qu'il me semble qu'une reconversion totale de l'industrie logique s'avère utile pour que la fonction positive de la poésie s'exprime enfin et non seulement son rôle négatif. Lorsqu'un germe animal ou végétal se développe, non seulement il disjoint et culbute le monde alentour de lui, mais il se construit lui-même, selon sa nécessité interne, dans la générosité, jusqu'à atteindre ses limites spécifiques, sa forme. Il y a là joie et audace, autant qu'exécration et révolte. Il y a jubilation, floculation et semence. Tel est le côté positif qui s'exprime.
Pierre Reverdy.
Eh bien, l'impossibilité de se laisser absorber et assimiler par le réel, d'en jouir avec plénitude, l'oblige à découvrir en lui seul les moyens de vivre et de respirer, sa raison d'être et de se supporter. Quant à la forme, je crois qu'on lui accorde une importance qu'elle ne peut pas avoir à notre époque où l'angoisse et le malaise de vivre obligent à se débattre, surtout pour casser la vitre et ne pas étouffer. Du reste, j'ai toujours pensé que la forme n'est que la partie la plus évidente du fond, ce que la peau est à ce qu'il y a dedans.
André Breton.
Absolument d'accord. La conception dualiste de la forme et du fond est un non-sens. À la limite, au moins, une forme parfaite, j'entends qu'il ne laisse rien à désirer, mobilise certaines puissances de perfection qui résident dans la pensée. Mais puisque vous parlez, bien reviendit, du rapport de la peau avec ce qu'il y a dessous, ne pensez-vous pas qu'il y a lieu de se méfier des cosmétiques, le don de l'image, de l'analogie dont vous avez quelqu'âge fait, comme vous, comme Francis Ponge, peut malgré tout faire illusion, rehausser des teints, en imposer comme la dame aux camélias. Voyez Claudel.
Francis Ponge.
Il est évidemment indispensable de désaffubler périodiquement la poésie. Concernant l'analogie, je dirais que son rôle est important dans la mesure où une nouvelle image annule l'imagerie ancienne, fait sortir du manège et prendre la tangente. Rien n'est plus réjouissant que la constante insurrection des choses contre les images qu'on leur impose. Les choses n'acceptent pas de rester sages comme des images. Quand j'aurais dit qu'un rosier ressemble à un coq de combat, je n'aurais pourtant pas exprimé ce qui est le plus important que cette analogie, la qualité différentielle de l'un et de l'autre. Quant à la forme, je dois dire, ou plutôt répéter, que je n'y vois plus que la peau des choses, le cerne de leurs limites, dont on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il définit l'essentiel. Tout de même, ce qu'on vient de nous apprendre à satiété concernant la désagrégation atomique doit nous donner idée de la force fantastique de retenue atomique contenue dans la moindre forme.
Sans vouloir évoquer cette vieille lune baptisée Mission du poète, je voudrais vous demander quelle est l'intention profonde du poète aujourd'hui. Pierre Reverdy.
Je crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature et dont personne, ni lui-même, ne pourrait se rendre compte s'il ne parvenait pas à s'exprimer. C'est là que commence ce désir d'émouvoir dont vous parlez. Il a d'abord l'impérieux besoin de s'exprimer pour se prouver à lui-même son existence, trouver son identité, la seule qui compte à ses yeux. Le désir d'émouvoir ne vient qu'en second lieu. S'il est solitaire, c'est par fatalité, malédiction ou infirmité, pas du tout honteuse d'ailleurs, mais d'où il doit tout de même se tirer. Et c'est pour sortir de cette solitude, de toute façon assez difficile à supporter, qu'il ambitionne d'émouvoir. C'est par l'émotion que son œuvre se montrera capable de provoquer chez d'autres âmes, si vous voulez, qu'il trouvera la preuve de l'authenticité de cette valeur pesante qu'il sent et porte plus ou moins péniblement en lui-même, et qu'il pourra rejoindre les autres hommes au seul point de contact où il pouvait les rencontrer. Une œuvre, c'est le lieu de rendez-vous que le poète donne aux autres hommes, le seul où il vaille la peine d'aller le trouver.
André Breton.
C'est vrai pourvu que son comportement par ailleurs n'en soit pas la négation trop appuyée, comme il advient pour les peintres les plus célèbres d'aujourd'hui.
Francis Ponge.
Oui, ici, sans doute, devons-nous le dire. Nous avons choisi la misère, afin de vivre dans la seule société qui nous convienne. Aussi parce qu'elle est le seul lieu, je ne dirais pas de l'empire de la parole, mais de son exercice énergique, dans le 36e dessous. Encore parce que c'est en partant d'en bas qu'on a quelque chance de s'élever. Enfin, parce que c'est avec le plomb qu'on fait l'or, non avec l'argent ou le platine.
André Breton.
Plutôt que d'émouvoir, je crois en effet que le rôle du poète est d'exalter ce qu'il nomme. Musset ou Heine ou Laforgue ont eu l'intention d'émouvoir. Ils ont ému à une échelle très vaste, mais ne nous émeuvent plus. Ce qui me paraît être le secret de la poésie, c'est la faculté, des parties à bien peu, de transmuer une réalité sensible en l'apportant tout d'abord à cette sorte d'incandescence qui permet de la faire virer dans une catégorie supérieure. Je crois qu'il suffit pour cela de grandes réserves d'amour. Peut-être justement le refus de la réalité prise dans son ensemble, telle qu'elle s'aliène sous nos yeux, appelle-t-il la remise en creuset de certains de ces éléments composants qui, au passage, semblent avoir quelque chose à dire, soit qu'ils apaisent, soit qu'ils déroutent notre regard. C'est ce qui vous fixe, Pierre Reverdy, dans la rue sombre. Ce qui vous retient, Francis Ponge, dans le bois de pin.
C'est justement à propos du bois de pin, je crois, que j'ai pu le dire. Si je m'adonne à un tel sujet, c'est parce qu'il me fait jouer tout entier, parce qu'il me défie, me provoque, me paraît propre à changer mon manège d'esprit, me force à changer d'armes et de manières, me refleurit enfin comme un nouvel amour. Voilà pourquoi je l'attends à ses rendez-vous, attends qu'il jubile de lui-même, et voilà ce dont je jouis à mon tour. Par les expressions que je viens d'employer très consciemment, l'on pourra juger que je n'éprouve, ce faisant, aucun sentiment de corvée, de devoir. Il s'agit d'une partie en tête-à-tête, à l'effet d'en perdre la tête. On me ferait rire, me parlant de message ou de mission.
Bien sûr, il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'idée de mission dans l'esprit du poète.
C'est Pierre Reverdy qui parle.
Le résultat missionnaire d'une œuvre dépend plutôt de celui qui la lit que de celui qui l'a créée. Ce n'est pas l'intention du rôle que pourra jouer l'œuvre qui doit préoccuper le poète. Il n'en pourrait préjuger que s'il savait exactement l'effet qu'elle va produire sur ceux qui vont l'aborder. C'est le cas de ceux qui écrivent pour un public donné. Au contraire, l'œuvre devant être révélatrice pour son auteur lui-même, et c'est là sa primordiale raison d'être, il est évident qu'il ne peut absolument pas se douter du genre d'émotion qu'elle va provoquer chez un autre que lui.
Mais la révolte est-elle aujourd'hui l'arme nécessaire du poète?
Je ne crois pas que la poésie soit une arme de combat. Sans doute, le poète n'est pas par définition un être social des plus parfaits, mais enfin, s'il n'adhère pas à l'ordre, si cet ordre terriblement désordonné le révolte, si son injustice le blesse et le rejette en dehors des rites dégradants de la société, son œuvre, quelle qu'elle soit, est un détour pour s'insérer, s'incorporer et, quoi qu'on se le rende, qu'il juge digne de lui, reprendre en définitive une place dans cette société.
Votre avis, André Breton?
Le poète a en effet un très bel avenir, de revenant. Revenant d'ailleurs sans plus rien d'hostile, et même paré de toutes les séductions. Mais que voulez-vous, André Parineau? Cet avenir est le seul auquel il prétende. Vous me direz que c'est un peu fort, mais c'est comme cela. Rappelez-vous cette fin de 1940, où le mot résistance était à peine chuchoté, en tout cas n'avait pas encore à l'intérieur du pays aucun répondant concret. Tout alors pouvait paraître consommé. Sous la férule de Vichy semblait au moral devoir s'imposer coûte que coûte un code de niaiserie tonitruante recouvrant de sordides roueries, code bien en rapport avec la disette alimentaire. Eh bien, c'est quand cet avilissement systématique paraissait le plus sans issue que tels accents de Baudelaire m'arrivaient, comme portés par l'émotion de tous ceux qui, comme moi, y avaient été ou y étaient sensibilisés, avec la certitude que cette sensibilisation ne pouvait être en vain et que le cauchemar que nous traversions serait balayé. C'est cela la vraie insertion, la vraie incorporation du poète dans la vie sociale. Que peut-il demander de plus que d'être cette bouée phosphorescente dans le naufrage?
Francis Ponge.
Belle expression que vous venez d'employer, cher Breton, celle de revenant. Dirais-je que cette résurrection dans la musique, au sens où les Grecs employaient ce mot, mettons l'harmonie ou le fonctionnement universel et intemporel, est imprévisible. Qu'elle n'a sans doute chance de s'accomplir qu'à la faveur d'un choix constant par le poète de sa propre différence, de son goût le plus profond, de son plus authentique désir. Ses propres censures, au fur et à mesure, jouant automatiquement. J'en finirai, pour ma part, par une déclaration sans autre mérite que son insolence, qui la rend sans doute particulièrement radiophonique. Il ne s'agit pas tellement de connaître que de naître. L'amour-propre et la prétention sont les premières vertus. À leur limite, se définit la personne. L'important est qu'elle fonctionne, plus encore qu'elle ne signifie.
Pierre Reverdy.
Oui, va pour les revenants. Aussi bien, n'avons-nous pas toujours surtout vécu nous-mêmes avec eux? On pourrait même dire les remanents, ce qui reste. Mais de notre vivant, la seule révolte qui eût été le silence, le refus absolu de collaborer. Mais le silence, dans ce monde où la masse des êtres ne vit que de bruit, et qui veut être niant. Or, ce qui explique peut-être le mieux et qui excuse dans la plus large mesure le poète, c'est que ce besoin d'exprimer qui le caractérise lui vient, sans qu'il y paraisse toujours très clairement, de la surabondance d'être qu'il porte en lui.
Vous venez d'entendre Rencontres et témoignages, une émission d'André Parineau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 19 octobre 1952. Téléchargement et réécoute sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.